Vous écoutez France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine spéciale consacrée à l'histoire des Templiers. Il y a 700 ans, en effet, à peu près au même moment, puisque c'était en février 1308, on ne connaît pas exactement la date, le pape Clément V suspendait l'action des inquisiteurs dans l'affaire des Templiers, juste quelques semaines avant que le roi Philippe le Bel n'essaie de reprendre l'initiative en convoquant en mars 1308 les états généraux. Nous sommes en plein cœur du bras de fer entre la papauté et la royauté, à la même époque la royauté française, donc avec le cas des Templiers. Hier, nous nous sommes approchés des sources rares sur lesquelles les historiens peuvent fonder leur travail. Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions semblables à partir des procès des Templiers entre 1307 et 1314. Que nous disent ces acteurs parlant sous la torture? Que peuvent faire de ce type de documents des historiens d'aujourd'hui? Entre aveux et rétractation, que doit-on choisir? C'est ce que nous nous demanderons, entre autres, en compagnie d'Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine, de Yann Potin, enseignant en histoire médiévale à l'Université de Nanterre, de Julien Théry, maître de conférence à l'Université de Montpellier III, et d'Alain Demurger, le grand spécialiste de l'histoire des Templiers en France, auteur, entre autres, des Templiers au Seuil, et qui est maître de conférence honoraire à l'Université de Paris.
Je ne le suis point, j'ai commis une erreur.
Vraiment, vous en convenez.
J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler.
Extrait évidemment des Rois maudits, tiré de la saga de Maurice Druon pour la télévision française dans les années 70, qui effectivement a été un des grands moments avec, on le disait mardi avec le documentaire d'Anaïs Quien, bonjour Anaïs,
bonjour,
qui a été
tous
aussi un grand moment de télévision autour de cette histoire des Templiers, puisqu'il y avait déjà eu auparavant, au début des années 60, la caméra explore le temps. Tout cela évidemment peuple l'imaginaire des téléspectateurs, des citoyens qui n'ont pas toujours l'occasion, Alain Demurger, bonjour, d'aller lire les ouvrages des savants sur cette question des Templiers, qui donc gardent comme cela des idées anciennes sur ce qu'a été l'histoire de cet ordre. Nous avons essayé tout au long de la semaine de montrer qu'il y avait derrière le travail, après le travail des historiens, qu'il y avait tout un tas de choses qui avaient changé, qu'on pouvait avoir de nouvelles analyses sur cette histoire des Templiers et en particulier sur cette déclaration totalement apocryphe de Jacques de Molay sur son bûcher, Alain Demurger.
Oui, la question de la malédiction est effectivement un des éléments importants du sottisier templier. Ça date du XVIe siècle à peu près. C'est au XVIe siècle que l'idée de la malédiction du roi Philippe par les Templiers et par Jacques de Molay est née. Mais il faut quand même bien dire que, comme toujours, quand on a affaire à des légendes comme ça et à des mythes qui se développent, il y a toujours un petit quelque chose au départ. Et le petit quelque chose au départ, c'est quand même que le témoignage de Geoffroy de Paris, de la chronique métrique de Geoffroy de Paris, qui était un clerc du roi, donc travaillait pour l'administration royale, mais très critique de cette même administration et du roi Philippe le Bel, il ne le portait pas dans son cœur, et qui a assisté au bûcher de Jacques de Molay, et qui a rapporté dans une chronique métrique, c'est-à-dire en vers, les derniers moments des Templiers qui brûlaient, des deux Templiers qui ont été brûlés ce jour-là, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay, et qui a amorcer le thème de ce qui va être ensuite le thème de la malédiction, non pas par une malédiction, mais par simplement Jacques de Molay déclarant que qui a tort, qui a raison, on le verra bien, c'est Dieu qui le dira et on verra bien plus tard.
Yann Potin.
Oui, ce qui me frappe dans la racine de cette légende sur la malédiction, c'est l'histoire de la 13e génération, finalement, qui, moi, me semble, pour le coup, enfin, de la malédiction jusqu'à la 13e génération, qui me semble, je ne sais pas si c'est votre avis, elle, plutôt assez tardive, puisque, comme par hasard, ça tombe pile à la génération de Louis XVI. Alors, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui... Et pas plus tôt. Du 19e siècle, en fait. Pour
oui,
pas dire,
non, mais le thème de la malédiction, moi je dis qu'il apparaît à partir du 16e siècle.
C'est ça, mais
c'est précise.
C'est à partir de. Vous savez, dans la malédiction, il faut qu'il y ait un imprécateur. Et cet imprécateur, c'est Colette Beaune qui a fait un petit article sur ce thème, qui le dit. Philippe le Bel a été maudit par les Templiers parce que déjà il était considéré comme maudit les textes, mais simplement on n'avait pas d'imprécateur, et alors cet imprécateur, ça s'est porté sur Jacques de Molay à partir du 16e siècle. Maintenant, ensuite que le thème
s'affine, ça s'enrichit de l'histoire postérieure des Renaissances. Alors, ce qui est quand même assez frappant malgré tout, c'est que dans le contenu de la malédiction, les trois acteurs. Les trois maudits, Philippe le Bel, Clément V et Guillaume de Noailles, sont quand même au cœur, quand même, de l'histoire du procès. Donc finalement, il y a aussi là une fulgurance, quand même, malgré tout, autour de ces personnages. Quoi.
Julien Théry, bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de Lyon, de Radio France.
Bonjour à tous.
Vous avez donc, vous aussi, travaillé, en particulier dans un article de l'Histoire paru à l'automne dernier du magazine L'Histoire, sur cette fin. Ce qu'on disait hier dans l'émission du mercredi sur les archives, c'est que la particularité de cette histoire des Templiers, c'est que souvent on la regarde par la fin, c'est-à-dire c'est la fin qui non pas justifie les moyens, mais qui d'une certaine façon bloque d'une certaine façon tout ce qui s'est passé auparavant. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé auparavant, on ne veut pas le voir, parce que justement ce qui est important, c'est cette fin, et c'est sur cette fin que vous avez travaillé pour cet article de l'Histoire. En vous attardant sur ce que vient de dire Alain Dumurgé, ce que viennent de dire Alain Dumurgé et Yann Potin, c'est-à-dire sur le nom de Philippe le Bel et l'importance du contexte du conflit entre la papauté et la royauté française juste auparavant, juste avant que l'arrestation des Templiers ne soit effective.
Oui, s'il y a effectivement un sottisier absolument démesuré au sujet de l'histoire des Templiers, en particulier du procès, comme le rappelait Alain Dumurgé, il me semble que c'est d'abord parce que l'histoire du procès elle-même est effectivement, objectivement, même pour les historiens les plus savants et les plus sérieux, difficile à saisir, difficile à comprendre. C'est un procès d'État, sans doute le plus retentissant de l'histoire du Moyen-Âge avec celui de Jeanne d'Arc. C'est le premier grand procès d'État du Moyen-Âge. Et ses tenants et ses aboutissants restent obscurs encore aujourd'hui, sont difficiles à s'expliquer. Et je crois que c'est là la première cause du développement des mythes divers à travers les temps, jusqu'au XIXe siècle et jusqu'à nos jours, avec, vous savez, ces sectes, par exemple la secte du temple, de l'ordre du Temple solaire, qui prétendait être...
Ces nombreuses sectes néo-templières créées pour tout à peu près, à partir des années 50, à partir d'une secte quasiment unique qui avait été fondée en 1952, je crois, au prieuré d'Ardilly, autour du prieuré d'Ardilly, par Jacques Braillère.
C'est ça, mais même au XVIIIe siècle, avec le développement du maçonnisme, il y a des sociétés de maçons qui se sont référées au temple. Donc c'est une très longue tradition.
Alors Alain Dumurgé, la question est sous-tendue par ce que vient de dire Julien Théry. Que peut faire l'historien à partir de ces preuves supposées que sont donc les textes du procès des Templiers? Qu'est-ce qu'il peut utiliser? Et on sent chez vous, en vous lisant depuis plus de 20 ans, 30 ans que vous travaillez sur ces questions-là, des sortes de virages, non pas sur l'aile, mais de changements d'attitude, en vous disant, ben voilà, est-ce qu'on peut utiliser ça? J'ai longtemps pensé qu'on ne pouvait pas les utiliser, comme beaucoup d'historiens, parce que c'était des aveux extorqués sous la torture, mais tout compte fait, on peut peut-être travailler à partir de cela tout de même, parce qu'il y a des concomitances qui sont assez significatives. Qu'est-ce qu'on fait à partir de tous ces témoignages recueillis donc lors des procès des Templiers par les inquisiteurs, justement?
Bon, je crois qu'avant toute chose, il faut préciser, il me semble qu'il y a quelques petites choses à préciser. On dit le procès des Templiers, oui, moi je préfère parler de l'affaire des Templiers. au sein de cette affaire, il y a de multiples procès.
Voilà, il faut parler.
Il y a le procès français, la procédure royale, puis il y a les, bon, sur lequel on va revenir tout de suite. Mmh. Mais il y a aussi un autre procès dont on n'arrive pas à se dépêtrer, c'est le procès que l'historiographie a fait aux Templiers. C'est-à-dire qu'en fait, moi je pense que Philippe le Bel n'a pas gagné en 1312, 1314. C'est pas lui qui a gagné, c'est le pape finalement. Il a perdu ce procès. Mais alors, le procès de l'historiographie, il l'a gagné, hein, grâce à tout ce qui a été produit depuis, au Michelet ou autre. Ça fait. Et encore maintenant, ce procès des Templiers fait par l'historiographie est extrêmement difficile à changer et à faire bouger. C'est extrêmement difficile de faire bouger les lignes, comme on dirait.
En quoi est-ce qu'il l'a gagné ? En quoi est-ce que Philippe le Bel, selon vous... En quoi est-ce que, selon vous, Alain de Murger, Philippe le Bel a gagné le procès ? Au sens où il apparaît comme le premier personnage, le premier protagoniste ?
Comment il a gagné le procès d'historiographie ?
En quoi l'a-t-il gagné ?
Ouais. Bah, dans la mesure où les arguments qu'il a pu donner pour attaquer les Templiers... et pour les mettre en procès et pour les supprimer, sont largement repris dans une historiographie, même savante, même scientifique, de notre époque. Oui. Je veux parler en partie... Alors, et puis, il y a en plus l'environnement. C'est-à-dire que les Templiers ont été mis en procès. D'abord, on ne considère que... On oublie qu'il y a aussi les hospitaliers qui continuent leur petite aventure en Orient, Rhodes, etc. Bon, et on cherche toute une série d'arguments qui font que, même si les Templiers ne sont pas coupables de ce dont on les accuse, ce qui leur est arrivé, c'était à peu près de leur faute et ils le méritaient bien.
Mais il faut dire que la nature a horreur du vide. On a horreur du vide. Si les arguments de Philippe le Bel étaient faux, dans ce cas-là, il n'y a plus rien. Il ne reste que le procès. Mais il ne reste plus d'accusations qui tiennent. Donc, ouais. Le discours historique a horreur du vide, comme la nature. Donc on reprend les arguments qui ont été avancés.
C'est ça, oui, peut-être.
Oui, Yann Potin.
Dans cette espèce de longue victoire historiographique, si j'ose dire, il y a une étape, une transfiguration, une transformation essentielle qui est le gallicanisme. C'est que là où Philippe le Bel gagne, non pas lui-même, mais disons sa figure, gagne quelque chose, c'est qu'elle va s'inscrire dans toute la justification à partir du XVIe siècle, mais surtout à partir du début du XVIIe siècle, et notamment avec celui qui a été et reste le premier éditeur de l'affaire des Templiers, c'est-à-dire Pierre Dupuis, avocat au Parlement, et qui est en même temps le grand éditeur des preuves des libertés de l'Église gallicane. Tout ça se passe dans un mouchoir de poche chronologique entre 1638 et 1645, et qui est en fait un des grands préparateurs et théoriciens de l'absolutisme tel que Louis XIV va le mettre en pratique 20 ou 30 ans plus tard. Et dans cet ordre-là, Philippe le Bel a gagné, via la postérité de son procès et de ses preuves, plutôt du côté du droit d'un droit royal, sinon absolu, du moins fondé sur un parti gallican très fort, c'est-à-dire un roi qui est aussi
chef de l'Église
et avec une tendance à toujours marquer la supériorité du temporel sur le spirituel.
Anaïs Quien.
Oui, alors justement, Emmanuel, il faisait allusion tout à l'heure. Peut-être qu'on peut resituer un petit peu dans quel cadre relationnel entre le Royaume de France et la papauté se situe l'affaire des Templiers, comme vous le disiez, Alain de Murger. Peut-être Julien Théry.
Julien Théry, justement, sur ce cadre très particulier tout de même, parce que ça n'arrive pas à n'importe quel moment. En 1307, ça n'est pas une date anodine. Il y a vraiment un conflit très fort et déjà un peu ancien entre la papauté française, entre la royauté française et la papauté.
C'est vrai, c'est un des éléments qui me sont apparus les plus importants quand je me suis mis à travailler sur le procès il y a quelques années. On a souvent fait mention du fait que le procès des Templiers intervenait juste après deux autres affaires majeures qui ont été l'occasion de conflits très violents entre la royauté française et la papauté. D'abord, le procès intenté par Philippe le Bel à un évêque du sud de la France, l'évêque de Pamiers, cette petite ville de l'actuel Ariège, qui s'appelait Bernard Cesset, qui était un proche du pape Boniface VIII. Un procès lié à une controverse sur les privilèges de la papauté dans le royaume de France. Et puis ce premier procès, au cours duquel l'évêque a été accusé de trahison puis d'hérésie et arrêté par le roi de France en dépit du fort ecclésiastique, en violation absolue des immunités ecclésiastiques, ce procès a été suivi très rapidement, dès 1302-1303, d'un procès encore plus inouï contre Boniface VIII lui-même.
Donc
de la
contre
part,
le pape.
Contre le pape lui-même.
Hein, accusé lui aussi d'hérésie.
Accusé d'hérésie, ce qui était tout à fait sans précédent, tout à fait inédit. Ce procès a tourné court assez vite. Un procès qui était aussi un coup de force, hein, tout simplement, parce que le roi de France appelait un concile général dans toute la chrétienté pour démettre Boniface VIII et se faisait fort de prouver par l'intermédiaire de ses conseillers la culpabilité du pape. Ce procès a tourné court très vite, puisque le pape est mort. Le pape est mort après...
Mais même mort, il gênait encore Philippe le Bel.
C'est ça.
Pape.
Mais ce n'est pas tellement qu'il le gênait, c'est que Philippe le Bel avait bien l'intention de mener la procédure judiciaire à son terme. Il avait engagé une procédure en hérésie contre le défenseur de la foi, le premier défenseur de la foi sur Terre, et ça le posait lui-même en ultime rempart de la foi. Ça lui donnait un rôle christique, donc, puisque le rôle de défenseur de la foi sur Terre, c'est un rôle christique, c'est le rôle du Christ et des successeurs du Christ. Philippe le Bel entendait continuer ce procès par-delà la mort contre Philippe le Bel, comme on poursuivait les procès par-delà la mort contre tous les hérétiques. Hein. C'est pas parce que vous mouriez quand vous aviez été déclaré hérétique que vous étiez exempt de châtiment. On déterrait couramment les ossements des gens, y compris des morts, donc des gens morts et...
excommuniés.
Et excommuniés, mais dont l'hérésie avait été prouvée par la suite. L'objectif, donc, à l'avènement de ce nouveau pape Clément V en 1305, de la part de Philippe le Bel et de son entourage, c'est d'obtenir de ce nouveau pape la reconnaissance rétrospective du bien fondé des actions de Philippe le Bel et des siens contre Boniface VIII, la reconnaissance du bien fondé de ce procès en hérésie, sa clôture par une condamnation posthume et l'exhumation des os de Boniface VIII pour les brûler.
Alors, ça n'est pas rien, tout de même, que de la part du roi de France, en l'occurrence Alain de Murger, que d'attaquer le pape de son vivant, après sa mort, et de demander à son successeur, justement, de poursuivre la procédure pour excommunication, pour hérésie.
Un procès à la mémoire du pape Boniface VIII, oui. Oui, c'est pas rien, et il faut bien remarquer que, pour faire le parallélisme avec le procès des Templiers, je voudrais insister sur le fait que les Templiers, c'est un ordre religieux. Il faut bien religieux militaire, on peut gloser sur le rapport entre les deux, religieux d'abord, et donc dépendant entièrement du pape, soumis au pape, et par conséquent, le roi Philippe le Bel n'avait pas le droit, n'avait pas le droit de s'en prendre au temple, il fallait qu'il passe par le pape. Donc, de la même façon qu'il il affronte directement Boniface VIII, la mémoire de Boniface VIII, eh bien, il se sert, parce que je pense que c'est ça à l'origine, il se sert de l'affaire des Templiers, qui éclate à ce moment-là pour des raisons sur lesquelles on pourra peut-être, qu'on aura peut-être le temps de voir. Il se sert de l'affaire des Templiers pour accentuer la pression sur le pape Clément V pour obtenir la condamnation de la mémoire de Boniface VIII. Et il se sert il s'appuie sur le seul argument qui peut, à la limite, justifier son action illégale, l'hérésie. Il faut tout de suite frapper très haut. Hein. Les Templiers sont hérétiques, vous ne faites rien, donc moi, je fais.
Ce que vient de nous laisser entendre Julien Théry, à l'instant même, Alain de Murger, c'est qu'il y a une sorte tout de même de processus assez habituel. C'est-à-dire la même chose contre l'évêque de Pamiers un peu plus tôt, la même chose contre Boniface VIII, la même chose contre les Templiers. Donc l'hérésie sert au roi de France à chaque fois à disqualifier l'adversaire et à permettre d'avancer ses pions, pourrait dire.
Et à transformer la nature de son propre pouvoir.
Oui, et transformer la nature de son pouvoir. On reviendra après, Alain
De Murger. Et à justifier son action. Alors c'est pour ça, je voudrais peut-être là, on anticipe peut-être sur ce qui va être dit, mais bien, je voudrais quand même bien préciser que l'attaque, la première procédure contre les Templiers, elle a lieu dans le royaume de France, elle vient du roi. C'est une procédure royale dont le pape est exclu. Les inquisiteurs, oui, mais pas le pape est exclu et il n'a pas été mis au courant.
Et il est particulièrement chiffonné, ce pape.
Et je crois que ça a de l'importance pour la compréhension aussi du procès dans la durée, c'est que ensuite, le jeu du pape, la politique pontificale de Clément V, qui n'est pas le pape un peu faible qu'on a décrit, c'est de reprendre la main, de replacer toute l'affaire des Templiers sous la coupe de la papauté.
Et février 1308, justement, avec la reprise.
C'est le départ de ce bras de fer qui va aboutir à imposer une procédure pontificale au cours de l'été 1308.
Et dire donc de la part du pape, c'est moi qui prends la charge de cette procédure. Ça n'est pas au roi de France de le faire, puisque ces Templiers dépendent de ma propre personne et donc de la papauté. Yann Potin.
Oui, parce que Pour revenir sur l'enjeu, ou plutôt pourquoi, après tout, Philippe Le Bel n'est pas, ou plutôt ses conseillers, qu'est-ce qui leur permet, même par rapport à eux-mêmes, de faire cette transgression qui consiste à envisager toute cette série de procès, dont celui qui paraît le plus incroyable est finalement contre le pape. Il faudrait peut-être aussi évoquer une proximité chronologique et qui est en fait un arrière-plan, qui est que tout juste 10 ans avant l'arrestation du temple, en 1297, Philippe le Bel a obtenu la canonisation de son aïeul Saint-Louis. Mais à la limite, ça c'est un fait qui est connu, mais il y a quelque chose qui rapproche, si on resserre la chronologie, en 1306, cette canonisation est renforcée par la réunion de 2 reliques très très précieuses au sein même du palais de la Cité. Palais de la Cité qui est d'ailleurs à ce moment-là en pleine restructuration et qui est en train de devenir le centre d'un État qui va justement pouvoir arrêter en une journée, ce qui n'a jamais été fait, tous les Templiers, agir un peu partout dans le royaume. Bref, donc en 1306, Philippe le Bel obtient, après plusieurs années de débats avec les moines de Saint-Denis, le transfert du chef de Saint-Louis canonisé, donc à la Sainte-Chapelle, c'est-à-dire exactement à 20 cm, si j'ose dire, de la couronne du Christ. C'est-à-dire que par rapport à ce qui, quand même, et ça me semble très important de le mentionner, rend et constitue une arme, ou si j'ose dire, une garantie de ce point dressé contre le pape, contre les Templiers, parce que ce point dressé, ou ce droit qui se lève face à l'Église qu'il accuse, il se lève avec d'un côté la tête de Saint-Louis et de l'autre côté la couronne du Christ, et les deux, si j'ose dire, unifiés, lui étant le gardien et le porteur de ces deux justifications ultra-spirituelles.
Alain de Murger, puis Julien Théry.
Oui, alors sur la question des rapports avec Saint-Louis, moi je mettrais quand même un petit bémol sur le lien Saint-Louis et Philippe le Bel. On dit, vous comprenez, Philippe le Bel ne peut pas faire autrement par rapport à la croisade en particulier. Il est le petit-fils de Saint-Louis, donc forcément Philippe le Bel pense à la croisade, veut faire la croisade. Alors on sait que Philippe le Bel a effectivement pris la croix la veille de sa mort, ou quasiment, en 1313 ou 1314, et que, évidemment, ça ne pouvait pas être suivi des faits. Mais on sait qu'il a utilisé à fond, effectivement, la croisade pour obtenir... Il faut bien dire que la papauté, depuis un siècle, avait donné le fouet pour se faire battre là-dessus, pour obtenir des décimes, c'est-à-dire que les décimes pour la croisade, Philippe le Bel les demandait, Philippe le Bel et d'autres, il n'est pas le seul là-dessus à avoir abusé de la situation, il les demandait et il les utilisait pour toute autre chose. Et moi, je fais toujours la comparaison entre Saint-Louis et Philippe le Bel par rapport à la croisade. Quand on dit, quand on se sert et qu'on veut faire la croisade, on la prépare. On a un exemple magnifique de préparation de la croisade par Saint-Louis. On sait comment on se prépare une croisade. Il faut bien dire que Philippe le Bel n'a jamais préparé la croisade.
Ce que je voulais dire, c'était c'est pas tellement l'idéal de croisade, finalement, ou alors il le transpose finalement dans une autre forme de croisade, qui est une croisade justement du pouvoir temporel contre le spirituel corrompu. Mais c'est l'idée même d'une matérialité et d'un siège nouveau. Le fait que Saint-Louis avait récupéré la couronne d'épines du Christ, c'était déjà bien, mais là l'association se fait de manière d'autant plus forte entre la dynastie et cette couronne d'épines, surtout je dirais que le fait que les moines de Saint-Denis aient tenté de lutter contre cette
appropriation,
ce qui était même plus qu'une appropriation, une énorme confusion complète, qui était véritablement plus simplement de faire du roi un saint, comme Boniface VIII l'a accepté en 1297, mais véritablement l'image vivante du Christ. À partir de là, oui.
Cela au cœur du pouvoir temporel du
roi. Si Philippe le Bel est l'image vivante du Christ, le fait que le pape n'est que l'image vivante de Saint-Pierre. Donc l'ordre doit être rétabli.
Oui, justement, sur ce point, Julien Théry, on tourne toujours autour de cette question. C'est vraiment, selon vous, votre interprétation, justement, entre autres, de ce procès, donc de cette fin des Templiers, c'est bien une question qui tourne autour de qui aura le pouvoir temporel et spirituel sur le royaume de France, et puis quel sera le type de rapport qui pourra être mis en place entre la papauté et le roi de France ensuite.
Oui, je crois que l'interprétation générale, elle me semble devoir tenir à une mutation générale de la nature du pouvoir royal en France à cette époque-là. C'est pour ça que les éléments qu'a avancé Yann à l'instant sont très importants. Le fait que le grand-père du roi Philippe le Bel vienne d'être canonisé, le fait qu'effectivement on fasse affluer vers Paris des reliques de la Sainte Croix, les reliques les plus précieuses de l'histoire sainte, est tout à fait en phase avec cette mission que s'arroge Philippe le Bel, que lui attribue ses conseillers, mission nouvelle qui consiste à défendre la foi et à être le dernier rempart de la foi au moment même où celui qui est le seul habilité sur terre à la défendre, le pape, le successeur du Christ, est déclaré défaillant, est déclaré hérétique. C'est pour ça que ces trois affaires successives, l'affaire Cesset, l'affaire Boniface VIII où le pape lui-même est accusé d'hérésie, puis l'affaire des Templiers où Philippe le Bel découvre qu'une hérésie souterraine s'apprête à gagner tout le royaume de sa contagion, et où lui-même, Philippe le Bel, en tant que tête du royaume, comme corps mystique, s'apprête à sauver ce royaume en retranchant le corps, le membre putride qu'est l'ordre des Templiers du reste du corps, hein, dans une métaphore anti-hérétique classique de la papauté du XIIIe siècle. Tous ces éléments participent de ce qu'on peut appeler une sorte de pontificalisation du roi de France, au sens où à ce moment-là, le roi de France réussit à capter des attributs mystiques de la souveraineté, qui étaient ceux de la souveraineté pontificale au XIIIe siècle, de la théocratie pontificale.
Vous êtes d'accord, Alain Demurger, avec
cet ordre ? Tout à fait, oui. On parle souvent de... ça, c'est un thème qui est connu, mais adopté depuis longtemps par les historiens. Le roi est empereur en son royaume, mais le roi est pape en son royaume, c'est aussi quelque chose de...
C'est nouveau.
Tout à fait.
Que le roi soit pape en son royaume, justement, ça date de ces grandes affaires-là, dont l'affaire des Templiers n'est, si vous voulez, que le dernier moment. Ce qui m'est apparu en travaillant depuis quelque temps sur le procès, c'est que non seulement il faut le mettre en relation, comme on l'a toujours fait d'évidence, relation chronologique avec les deux affaires précédentes, mais c'est aussi, mieux encore, le fait qu'il ne s'agit que d'une seule et même affaire. Si vous voulez, si on les étudie toutes les trois dans le détail, ces trois affaires, contre Bernard Cesset, évêque de Pamiers, déclaré hérétique, contre Boniface VIII, déclaré hérétique, contre les Templiers déclarés sectes hérétiques, ce qui est tout à fait frappant, c'est que même dans le détail, on procède à chaque fois de la même manière.
Vous voulez dire que c'est une sorte de mécanique, comme il a pu y avoir au XXe siècle, de mécanique de procès, alors dans d'autres systèmes politiques évidemment, mais où d'une certaine façon, le roi aurait trouvé le levier, qui lui semblait le meilleur levier, pour pouvoir justement imposer sa volonté autour de ces questions-là.
Si vous voulez, j'insisterai pas tellement sur le parallèle avec les procès d'État nombreux que l'on a connus par la suite, puisque ces procès étaient dans le cadre de différents totalitarismes en règle générale, que donc ce qui y avait à fonder ou ce qu'il y avait à confirmer était un peu différent.
Non, mais c'est plus sur la question de la mécanique. C'est-à-dire, il a trouvé le bon truc, la bonne formule qui lui permettait d'imposer sa volonté. Vous êtes d'accord, Alain Demurger ?
Alors, moi, là-dessus, je pense qu'effectivement, le procès des Templiers est un procès qui est un procès complètement fabriqué par le pouvoir politique. Mais... j'en reviens à la question que vous avez posée au début, à savoir sur j'ai varié, j'ai changé d'avis, etc.
Ouais, c'est, oui, pas c'est tout vrai. Seul d'ailleurs, plein de gens.
Non, mais c'est vrai, mais ça, j'ai travaillé 20
c'est
ans
dessus, bon
donc
signe,
effectivement. Alors, j'avais, il y a 20 ans, quand j'avais fait mon première mouture de mes Templiers, de l'ordre du Temple, j'avais dit que forcément, on trouvait dans cet ordre. On trouverait dans cet ordre des individus qui étaient coupables de toutes ces choses. C'était pas difficile, on en trouvait dans tous les ordres. L'ordre du Temple lui-même sanctionnait les pratiques homosexuelles, etc. Donc, il est très facile de se servir de toute une série de cas individuels pour les rassembler dans un ensemble cohérent d'accusations, d'autant plus que, dès le milieu du XIIIe siècle, pratiquement, ce corpus d'accusations contre les hérétiques de tout poil que l'Église combat du Midi Cathare ailleurs et qu'on va retrouver pour les Templiers est au point.
Oui, hein, c'est les stéréotypes.
Tout ça. Donc, il est très facile, effectivement. On trouvera toujours un Templier qui a dit une. Vous savez, si Saint Louis a pris des mesures contre le blasphème, c'est parce que le blasphème existait. C'est pas parce que ça lui est sorti comme ça de la tête. Donc, des gens qui disent je renie Dieu pour un oui pour un non, il y en avait. Les Templiers sans doute aussi. Donc, moi, je suis parti de ça, des cas individuels. J'en suis venu maintenant à une position, bon, d'accord, je l'assume complètement, à une position plus moins individualiste, moins cas individuel, en disant qu'il y a peut-être
une pratique, il y avait peut-être une pratique d'un rituel d'admission pratiqué dans ce corps militaire qui était le temple.
Rappelons tout de même que c'est le cœur et c'est même le premier point sur lequel porte l'accusation du roi justement vis-à-vis de ces templiers. C'est donc effectivement une sorte de contre-rituel qui aurait lieu. Il y a le rituel classique et puis une sorte de contre-rituel qui aurait lieu de façon secrète et qui serait un rituel en fait d'admission dans lequel on pisserait ou on cracherait sur la figure du Christ. Et où même on pourrait aller jusqu'à embrasser l'anus donc, d'un personnage. Et là, on invente cette figure de Baphomet, enfin, d'une sorte de personne qui serait la représentation du diable.
Alain sur Demurger, ce point, si je puis me permettre, juste pour, avant de laisser à nouveau la parole à Alain Demurger, mais pour discuter du point justement qu'il vient d'aborder, est-ce qu'il y a quelque chose quand même si ça n'est pas forcément qualifiable d'hérésie, derrière ces accusations, est-ce qu'il y avait des pratiques illicites dans une certaine mesure, et notamment dans le cadre d'un éventuel rituel de bizutage à l'entrée dans l'ordre. Alain Demurger vient de dire qu'il se demande toujours s'il n'y avait pas quelque chose ou pas à ce sujet. En ce qui me concerne, j'observe d'abord que cette question du rituel illicite, elle est au cœur de l'accusation.
Oui, c'est même le point central.
C'est le point central, c'est le premier des articles d'accusation qui est avancé par le roi, et c'est ce que les enquêteurs partout voudront obtenir comme aveu minimal. Les plus résistants, on poussera la torture jusqu'au point où on arrivera quand même à leur faire avouer ça. Et ça, c'est quoi? Il faut quand même un peu réfléchir sur le contenu de cette accusation. Ça, c'est le fait qu'en entrant dans l'ordre, on imposerait aux nouveaux templiers de faire offense au corps du Christ. Très concrètement, en crachant sur la croix, en la reniant trois fois, éventuellement en la piétinant, et puis en lui faisant toute une série d'outrages au gré de la fantaisie des juges ou des accusés sous la torture, uriner sur la croix, certains déclarent avoir uriné sur la croix, mais enfin, c'est toujours des variations autour de ce thème. Or, quand on s'intéresse aux textes non plus issus des dépositions des accusés, mais aux textes qui expliquent la démarche royale dans les poursuites contre les Templiers, qui justifient le début de l'affaire déclenchée par le roi, on se rend compte qu'est tracé en permanence un parallèle, un tissu de correspondance, si vous voulez, entre le corps du Christ insulté sous la forme du crucifix par les Templiers, aussi insulté sous la forme de l'hostie par les Templiers, parce qu'on les accuse de ne pas célébrer la messe d'offenser l'hostie. Hein, et l'hostie, c'est le corps du Christ.
Et de ne pas consacrer les hosties.
C'est ça. Il y a un parallèle permanent sous la plume des conseillers du roi entre ces offenses au corps du Christ et les offenses au corps du royaume, au royaume envisagé comme corps. Et ça, c'est tout à fait important, parce qu'on est justement, comme vous le rappeliez au début, Emmanuel Laurentin, au moment où vont être réunis ce qu'on peut considérer comme les premiers états généraux du royaume, qui unifient le royaume comme corps, qui sont une cérémonie à Tours, en mars 1308, avant d'aller plaider la cause du roi auprès du pape, pour lui demander de reprendre la procédure contre les Templiers, une assemblée qui réunit les états du royaume, qui se voit annoncer par le roi la menace hérétique contre le corps du royaume, et qui se voit enjoint de seconder le roi dans les pressions sur le pape, pour qu'il soit permis au roi de sauvegarder le corps du royaume contre cette contagion.
Alors, laissons conclure Alain Demurger, qui était parti sur son mea culpa personnel, ses aveux à lui.
Je voulais reprendre ce point parce que ça concerne l'accusation de départ.
Voilà. Oui, bien sûr, on a bien compris. Donc, Alain Demurger, donc vous pensez en revanche qu'il y a peut-être quelque chose, effectivement, d'une pratique qui aurait pu être partagée par un certain nombre des Templiers et que tout cela n'est pas une accusation simplement symbolique, comme semble le dire Julien Théry.
Je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Et là, sur ce plan-là, c'est sans doute exact. Ceci dit, au niveau du Templier de base, je ne sais pas si on allait chercher les choses si loin. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que si on suppose, faisons une supposition, que sur ce plan-là, les Templiers disent vrai. C'est la supposition que je fais, ils disent vrai. Supposons qu'ils disent vrai sur cette question du reniement du Christ, qu'effectivement, ils ont renié le Christ, ou on leur a demandé de le faire, puis ça s'est fait plus ou moins, etc. Parce qu'il est bien possible que ça ne soit pas fait partout de la même façon, que le rite secret, etc.
Avec l'idée tout de même que c'est le reniement de Saint-Pierre.
C'est le reniement de Saint-Pierre, ou c'est une mise en cause du vœu d'obéissance. Ça vient tout de suite après. Ça vient tout de suite après la prononciation des vœux. Parce que ça, je crois que c'est intéressant aussi la façon dont, dans les dépositions, au procès, ces aspects-là interviennent dans le cours des dépositions, dans l'ordre des choses. Bon, supposons que ça soit vrai. Ce qui me frappe, moi, je fais ce que je reproche à beaucoup de faire, c'est-à-dire un empilement d'hypothèses, mais je n'en fais que deux. Supposons que cette hypothèse soit la bonne, on s'aperçoit, on pourrait dire à ce moment-là que les Templiers ne se sont pas rendus compte de la gravité de la chose par rapport à ce que Julien Théry vient de dire.
À la religiosité ambiante, au symbolique.
Pourquoi supposer, pourquoi cette hypothèse au départ ?
Attendez, deuxième point, avant de conclure.
Ceci étant, pour aller très vite là-dessus, parce qu'on n'a pas le temps de... on n'a certainement pas le temps d'approfondir, mais il y a l'occasion d'un débat, et l'affaire des Templiers n'est pas finie, elle n'est pas close, tant mieux. Ceci étant, je crois que cette accusation, ces accusations faites de reniement, etc., ont été aussi un moyen pour, par la suite, un moyen pour le pape de mettre en cause l'initiative de Philippe le Bel. C'est-à-dire, quand je parle, il y a plusieurs procès, il y a aussi un phénomène de poupée russe. On laisse de côté la culpabilité des Templiers sur ce point pour juger, quand le pape reprend la main après 1308, pour juger de la réalité de l'accusation d'hérésie proférée par le roi à propos de ces faits. Et moi, ce qui me frappe, et ça, c'est quelque chose que je reprends quand même de l'étude qu'en a faite Barbara Fralet, même si je suis loin de tout reprendre dans ce qu'a écrit Barbara Fralet.
Alors, il faut expliquer, Barbara Fralet, c'est une historienne italienne qui a travaillé dans les archives du Vatican.
Oui, mais qui a surtout, avant d'être célèbre par ce manuscrit du Vatican, qui n'est pas aussi important qu'elle le dit, d'ailleurs. On connaissait déjà le texte et les faits. Mais elle a travaillé avec... effectivement une certaine emphase sur ce code secret, ce code de l'ombre, etc. Bon, mais c'est elle qui a lancé cela. Et donc ça, moi, je ne vois pas la contradiction qu'il y aurait entre se servir de certaines pratiques pour ensuite fabriquer un procès, qui reste de toute façon un procès fabriqué. Mais ensuite, ce qui, moi, je trouve intéressant dans l'évolution des choses, c'est que en 1308, donc au cœur de l'été 1308, quand le pape, à mon sens, reprend la main, reprend la procédure, replace sous sa coupe la procédure engagée. Évidemment, il ne peut pas complètement annihiler la procédure royale. Il l'a mis de côté, disons, mais il s'en sert. Et lance ensuite les procédures lancées par le pape, en particulier contre l'ordre, et qu'on connaît par le texte publié par Michelet, sont en fait une sorte d'épreuve des accusations royales. Ce qui est jugé, c'est moins... je dis avec un petit peu de... en caricaturant un peu, je serais beaucoup plus nuancé si j'avais le temps de l'écrire.
Dans un colloque.
Je dis qu'il se sert des preuves que Philippe le Bel a voulu apporter contre les Templiers pour les accuser d'hérésie. Il fait un procès de cette procédure pour dire non, ce n'est pas de l'hérésie.
Ouais. Alors, Yann Potin et Julien Théry, avant qu'on fasse une petite pause, peut-être. Yann Potin.
Oui, non. C'est pour revenir sur le corps du Christ, et peut-être c'est aussi croisé avec comment les Templiers ont-ils pu, en admettant que peut-être il y a un lien, effectivement, comme le dit Alain de Murger, il y a toujours de toute façon forcément des accroches, quoi. Donc, bon, avec une pratique.
Il y en a dans les autres ordres aussi. Voilà. On n'a pas d'exemple avant le procès. Oui, mais il y a plus chez les Templiers qu'ailleurs. Mais enfin, bon.
Il y a quand même une spécificité, c'est que les Templiers étaient. Le rapport que établissait Julien Théry tout à l'heure entre corps du Christ, corps du royaume, peut aussi, c'est pas tout à fait le même rapport, mais on peut aussi le penser par rapport aux Templiers, c'est que les Templiers, leur mission était de garder le corps du Christ. Donc, quoi qu'il en soit. Ils l'ont gardé, en tout cas la Terre Sainte et sinon le corps du Christ, du moins le sépulcre.
Oui, il y a toute une thématique eschatologique autour de l'ordre
du Temple. En sachant que selon saint Bernard, entre autres, notamment dans des commentaires, pas dans la lettre sur la nouvelle milice, mais fait partie de ces nombreux théologiens du XIIe siècle qui disent aussi que le nouveau temple, c'est-à-dire le temple de la nouvelle alliance, c'est le corps du Christ. Donc ancien temple, nouveau temple, le corps du Christ est quand même au cœur ne serait-ce que par la croix qu'il porte. Donc, de toute façon, ce qui est troublant, c'est que d'où viennent, si j'ose dire, cette centralisation sur le corps du Christ, et je disais tout à l'heure, je parlais de la couronne d'épines, c'est éminemment le corps du Christ, c'est bien ça qui est en jeu. Et en fait, fondamentalement, que ce soit Philippe ou que ce soit le pape, l'idée, c'est de rappeler que les Templiers ont oublié qu'ils devaient qu'ils ont oublié finalement le corps du Christ, qu'ils ont soit de le garder, parce que quelque part c'est une façon de leur renvoyer aussi l'idée que la Terre Sainte est perdue.
Alors Julien Théry, sur ces hypothèses, parce que les hypothèses sont nombreuses, oui, et pour en revenir précisément, avant de faire une petite pause, comme je le disais
tout
à l'heure,
pour en revenir rapidement sur la fin du procès tel que la décrivait, enfin la dernière phase du procès tel que la décrivait Alain de Murger, j'aurais pas tout à fait la même lecture que lui, au sens où, à mon avis, l'objectif de Clément V, une fois qu'il a cédé, parce qu'au printemps 1308, la phase de pression sur lui pour qu'il accepte que la procédure reprenne se termine par un moment où le pape cède, il résiste assez longtemps. Hein. Il y a des échanges assez durs.
De Murger n'est pas d'accord.
Il résiste assez longtemps et, par exemple, on a deux discours de Guillaume de Plaisian, premier, l'un des plus proches conseillers du roi devant le pape, en présence du pape, l'un daté du 29 mai 1308, l'autre daté du 14 juin, qui sont d'une très grande violence contre le pape, qui utilisent des versets de l'Apocalypse pour lui dire que l'histoire le vomira, ou plutôt que Dieu le vomira, car Dieu vomit les tièdes s'il refuse de condamner les Templiers. Et le pape résiste, dans les deux cas, à ces discours extrêmement violents. Il ne cède finalement qu'au tout début juillet 1308. Et ensuite, effectivement, jusqu'en 1312, pendant les quatre ans qui suivent, le pape est le maître d'œuvre de la procédure. Mais contrairement à l'interprétation que donne Alain de Murger, il me semble à moi, c'est à vérifier, hein, je l'avance avec prudence, il me semble à moi que Clément V veut se débarrasser du temple. Il veut en finir au plus vite avec le temple. Si, comme le dit Alain de Murger, son souci était finalement d'éviter l'accusation d'hérésie pour la transformer en une accusation d'errance ou d'erreur, de faute plus bénigne, je ne vois pas pourquoi il aurait fait systématiquement appliquer la torture, par exemple, comme en témoigne un grand nombre de lettres qu'il envoie en 1311, au moment où la date du concile de Vienne approche. Concile qui est prévu pour juger des résultats de ces procédures, au moment où
et donc
la date
pour
approche,
condamner définitivement
on n'a pas de résultat, hein, il n'y a pas de résultat qui viennent des commissions apostoliques qui œuvrent à travers toute l'Europe, une bonne partie de l'Europe. Clément V, qui veut des résultats, qui veut des éléments pour condamner l'ordre, demande à tous les inquisiteurs, en Aragon par exemple, en Angleterre, d'appliquer la torture, car ces inquisiteurs sur place ont du mal à le faire. L'objectif de Clément V était, si vous voulez, d'édulcorer finalement pour arranger l'affaire à la fin, d'édulcorer les fautes des Templiers, je ne crois pas qu'il possède de cette manière.
Donc victime sacrificielle.
À mon avis, Clément V faisait la part du feu et à un moment donné a décidé, pour préserver la prééminence du siège apostolique, notamment pour obtenir de Philippe le Bel qu'il abandonne ses prétentions au jugement postérieur de Boniface VIII, c'est-à-dire un désaveu de la prééminence du siège apostolique dans la défense de la foi. Clément V a décidé qu'il fallait sacrifier l'ordre du temple.
D'accord.
Et à partir de ce moment-là, il est devenu
attention quand même. On n'aura pas de pause puisque on est parti dans la
attention
polémique.
Quand même. Là encore, la chronologie. D'abord, en 1308, Clément V résiste, mais ensuite il passe un compromis. La solution de juillet-août, interrogatoire de Poitiers puis de Chinon, c'est un compromis. C'est-à-dire la base du compromis, c'est les procédures repassent sous la coupe de l'Église et du pape, moyennant quoi les Templiers restent sous la garde du roi de France.
Officiellement,
leurs biens restent aux mains du roi de France parce que, etc. Bon,
mais officiellement,
c'est un compromis. Non, il y a officiellement non, mais dans
pratique,
les faits,
oui.
C'est comme ça.
Oui.
Il y a effectivement des textes de Clément V où il nomme un certain nombre de gens qui sont chargés de prendre le contrôle des biens des Templiers. Bon, évidemment, ça restera
lettre morte,
mort parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mais l'essentiel, pour moi, n'est pas là. L'essentiel, c'est que la procédure repasse sous la coupe.
Ah, mais c'était aussi l'essentiel pour Clément V.
Et d'autre part, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que cette procédure, quelle est-elle ? La procédure appliquée par le pape, quelle est-elle ? Si on a le temps d'en dire deux mots. C'est une double procédure et chacune de des deux procédures se déroule en deux temps. Double procédure parce qu'il y a une procédure contre les personnes. On juge les Templiers en tant qu'individus, savoir s'ils sont coupables de telle ou telle chose. C'est au niveau diocésain que ça se fera. Il y a une deuxième procédure qui est engagée contre l'ordre pour savoir si l'ordre lui-même est une secte hérétique. Bon. Et c'est au niveau de commission pontificale, une par État, que cela va se faire. Et puis, ça se fait en deux temps pour chaque procédure. Il y a une procédure d'enquête, c'est-à-dire on interroge, et puis il y a une procédure de jugement et de sentence. Bien, dans les deux cas, pour les personnes, la procédure d'enquête, ce sont les évêques, dans le cas du diocèse, la procédure de jugement, c'est au niveau de la province ecclésiastique, et ce sont les archevêques qui la prononceront. Pour l'ordre, la procédure d'enquête, c'est au niveau des commissions pontificales. La procédure de jugement, c'est le concile qui sera réuni à Vienne, puis qui a été repoussé d'un an. Reste le cas,
parce qu'on n'avait pas de preuves.
Et c'est, reste le cas que, qui est intéressant aussi, les 72 Templiers interrogés à Poitiers, qui sont venus à Poitiers parce que le pape voulait les interroger. Le pape a toujours maintenu, pendant la phase de résistance au roi, en disant « Je ne prendrai aucune mesure contre les Templiers tant que je ne les aurai pas entendus moi-même. »
C'est pour ça qu'on les lui a appelés, d'ailleurs, finalement.
Donc, on lui a livré 72 Templiers.
Triés sur le volet, sans aucun dirigeant.
Qui ont été interrogés. Et les 5 dignitaires qui sont restés en rade parce qu'ils étaient soi-disant trop faibles, un peu malades, c'est peut-être vrai d'ailleurs. À Chinon, mais en tout cas, ils auraient pu aller jusqu'à Poitiers, ils auraient été soignés aussi.
C'est un peu curieux, oui.
Oui. Donc, mais le pape a envoyé des cardinaux les interroger à Chinon. Donc, les 72 plus les 5 ont effectivement été enquêtés, si je puis dire, par le pape. Et ensuite, restait à prononcer le jugement. Alors, c'est avant qu'on prononce ce jugement qu'intervient cette fameuse absolution qui est donnée par les cardinaux au grand maître, etc., mais qui va se trouver être quelque chose de très banal, puisque dans tous les jugements, dans tous les enquêtes, à la fin des enquêtes, tous les Templiers qui ont reconnu leurs erreurs, qui reconnaissent qu'ils ont fauté sur ça, ça et ça, sont absous et réconciliés avec l'Église.
C'est une absolution sacramentale.
Ce qui n'empêche pas ensuite les sanctions.
C'est une absolution sacramentale. Attendez,
j'ai vu atterrir Anaïs Kien.
Alors justement, quel est l'intérêt pour le Vatican aujourd'hui de publier de nouveau ces documents et de se justifier une fois de plus?
Oui, parce que donc il faut préciser que ces documents, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, on a appris donc, par l'intermédiaire entre autres de Barbara Frallet, mais pas seulement, donc que le Vatican, par une publication scientifique, le Vatican donc mettait à disposition ces documents de 1308, donc dans lesquels le pape aurait absous, le pape Clément V aurait absous justement ces Templiers. Voilà.
Alain de Murger, au moment de l'anniversaire de l'arrestation.
Voilà. Donc c'est en fait la documentation. Si je j'ai pas vu, hein, ça, si vous pouvez me payer le bouquin à 5 800 €, moi je veux bien. C'est des facsimilés. Hein, donc c'est cher, c'est sûr. C'est une édition de luxe, c'est cher. Bon. Les facsimilés, c'est apparemment toutes les pièces que dont le Vatican dispose sur le procès. Parmi elles, mais ce n'est qu'un tout petit morceau, le dernier document trouvé en 2001 par Barbara Frallet, à savoir l'original du procès verbal des 5 dignitaires templiers faits à Chinon, interrogés à Chinon par les cardinaux en août 1308, dont on connaissait le contenu, et qui n'est plus un inédit, puisque Barbara Frallet a publié elle-même, dans un livre paru en 2003, ce texte. Donc, ce n'est pas un inédit.
Non, mais alors, justement, quel est l'intérêt, je ne sais pas, Yann
Puis
Potin
Puis d'en faire un grand raout médiatique, comme ça a été
cas en octobre dernier. Pourquoi
pour fêter justement l'arrestation royale, le pape, ou plutôt la curie, donc, a édité ses facsimilés à 800 exemplaires, dont le 800e numéro était réservé personnellement à la personne au corps de Benoît XVI, si j'ose dire. Effectivement, il y a... C'est pas un hasard, c'est certainement pas un hasard. On peut se poser plusieurs questions. Il y a un questionnaire, si j'ose dire, contemporain, qui est pourquoi la papauté cherche à relaver les Templiers. On pourrait discuter de. Ça s'inscrit certainement dans les mutations en cours que Benoît XVI. Mais c'est pas inintéressant. Ce qui m'intéresse moi le plus, c'est pourquoi elle utilise, alors qu'elle a bien d'autres instruments, l'érudition historique, ce qu'elle avait abandonné, là, je veux dire, la papauté depuis fort longtemps, pour.
Sur cette question-là, peut-être, mais enfin, on sait qu'il y a pas mal d'érudits qui travaillent.
Oui, mais pas en son nom propre. Oui. Ah, bien sûr. Il y a même une école française de Rome qui, jusqu'à pas longtemps, publie encore même les registres du pape. Mais justement, c'était pas la papauté qui a publié ses propres registres. Ouais. C'était. Mais là, elle se met à publier ça.
Il y a le Da Vinci Code. Il y a une réponse au Da Vinci
voilà,
Code.
Voilà. C'est vers ça que je voulais aller.
Faisons passer la parole à Julien Théry, justement. Alors, les interprétations de ces publications contemporaine savante par le Vatican, selon vous, donc de cette idée que le pape Clément V aurait donc absous ces 5 dirigeants de l'ordre, pourquoi maintenant? Et pourquoi par la papauté elle-même?
Alors, le Vatican est prudent avec cette publication et le préfet des archives vaticanes, Monseigneur Pagano, qui est un scientifique tout à fait irréprochable, tout à fait prudent, ne prétend pas qu'il y a de grandes nouveautés, ni qu'il y aurait là la preuve que les Templiers étaient innocents. Simplement, cette publication
intervient à la suite des travaux personnels de Barbara Frale, qui était proche du Vatican, puisqu'elle a fait ses études à l'école de paléographie du Vatican. Elle a été formée et elle travaille encore aux archives du Vatican. Et je pense que la coïncidence dans le temps entre l'anniversaire de l'arrestation et à quelques mois près, l'affaire du Da Vinci Code, qui a beaucoup marqué l'Église à cause de l'impact considérable sur les populations mondiales, hein, l'impact mondialisé du Da Vinci Code, explique cette initiative. L'Église, que vous savez, est très attentive, évidemment, aux questions de communication. Hein. C'est gérer le peuple des fidèles, c'est une des premières priorités, et ça passe notamment par la communication. Et l'impact extraordinaire qu'a eu en termes de diffusion le Da Vinci Code, le livre, puis le film, a ébranlé l'Église, hein, a ébranlé la hiérarchie catholique, qui a à faire face, comme vous savez, à de nombreux défis, ouais, hein, au développement notamment de l'épiscopalisme en Amérique du Sud.
L'évangélisme protestant.
C'est ça, qui a à faire face à des lectures laïques incontrôlées par la hiérarchie ecclésiastique des évangiles. Alors, ce qui est d'une certaine manière le Da Vinci Code.
Justement, Alain de Murger, c'est fort intéressant parce qu'on revient d'une certaine façon par un autre moyen au début de notre discussion, c'est-à-dire que voilà, il y a le travail sérieux des historiens, et que le travail sérieux des historiens sur une affaire comme les Templiers ou l'histoire de l'ordre du Temple est toujours, disons, caviardé par une sorte de lecture prosaïque et laïque qui se développe dans les sociétés occidentales en particulier sur ces questions-là, et que vous avez toujours à répondre plutôt qu'à continuer d'avancer vos arguments et avancer votre travail d'historien, là, de Murger. Vous n'avez pas cette impression-là, que ce soit après Les Rois Maudits de Maurice Druon il y a 35 ans ou 40 ans, ou encore aujourd'hui à cause du Da Vinci Code, eh bien, l'historien se trouve toujours en porte-à-faux sur un sujet comme celui-ci.
Oui, parce qu'on perd son temps d'abord à lire beaucoup de choses bêtises parfaitement inutiles, parce qu'elles se recopient toutes, elles se reprennent toutes, mais on est bien obligé de les regarder. Ensuite, de toute façon, qu'on dise « mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas ça, mais non, c'est pas comme ça », de toute façon, c'est comme si on crachait dans l'Oise, à défaut de cracher sur... je dis l'Oise parce que c'est pas chez moi, plutôt que de cracher sur la croix du Christ, ça sert strictement à rien. Bon, alors... malgré tout, l'histoire continue et on continue. Comme disait Morcel, c'est un sport de combat. Et bien, continuons.
Joseph Morcel, qui était notre invité, lundi. Ouais. L'histoire du Moyen-Âge est un sport de combat.
Yann Potin. On pourrait même ajouter que cette histoire-là du Moyen-Âge et cette histoire du procès, c'est comme presque une mise en abîme de la recommencer et finalement presque la publication de Benoît XVI, si j'ose dire, la réédite, une mise en abîme recommencée à chaque fois de la scène inaugurale de l'histoire, c'est-à-dire de ce moment où l'histoire passe du droit à la science, c'est-à-dire en fait de l'administration de la preuve judiciaire, dans le cadre par exemple d'un procès, et finalement on est toujours en miroir depuis le début dans cette histoire des Templiers entre la preuve est-elle la preuve de la vérité ou est-ce que c'est la vérité de la preuve. Donc on est toujours dans ce mouvement de balancier, et que finalement l'affaire des Templiers, de la même façon qu'au XVIIe siècle, Dupuis est à la fois le fondateur de la réédition historique, enfin un des fondateurs de la réédition historique, et en même temps un des grands idéologues qui va transfigurer juridiquement
de façon que Michelet est un des grands fondateurs de l'histoire, et en même temps contemporaine, et celui qui publie le procès des Templiers.
Voilà, exactement. Et en même temps aussi de la République, un des grands idéologues de la République, bon, etc., etc. Donc peut-être que là, en tout cas du côté de la papauté, on retrouve cette même scène inaugurale, droit, justice, histoire.
Julien Thierry, deux minutes pour terminer.
Juste une minute, c'est pour ça, si je puis me permettre, que pour faire un travail d'historien, et non pas un travail d'élucubration, un travail d'amateur, ou alors un travail d'historien de la mémoire, il me semble qu'il faut aborder le procès des Templiers, aborder les sources non plus en se demandant s'ils étaient coupables ou non, ou de quoi ils pouvaient être coupables, mais lire plutôt un autre type de source, non pas les dépositions, mais les textes rédigés pour justifier la procédure, qui expliquent ses causes, et se poser la question de savoir quelles étaient les motivations du principal acteur de la procédure, c'est-à-dire le roi. Non plus la question était-il coupable, mais la question pourquoi le procès a-t-il eu lieu, indépendamment de la question de la culpabilité. Qui avait intérêt et pourquoi, selon quelle modalité, à mener ce procès.
Vous êtes d'accord, Alain de Murger?
Oui, c'est ce que je dis à chaque fois quand on me dit « Oh, mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. » Qui a allumé le feu?
Merci.
On l'oublie toujours.
Merci, donc, Julien Théry. Merci, Alain de Murger. Alors, Alain de Murger, on ne peut pas citer tous les livres dans lesquels vous évoquez évoquer cette question des Templiers. Citons entre autres les Templiers, donc une réédition de Vie et mort de l'ordre du Temple augmenté, transformé en 2005, une refonte complète, une chevalerie chrétienne au Moyen-Âge au seuil. Il y a aussi une biographie de Jacques de Molay. Et citons pour Julien Théry l'article que vous avez publié dans le numéro 323 du magazine L'Histoire en septembre dernier, en septembre 2007, contre-enquête sur un procès. Merci à tous les trois, en tous les cas. On voit que cette question du procès des Templiers reste encore en débat chez les historiens et que ce sera encore longtemps en débat, visiblement. Avec les mêmes sources, on peut toujours retravailler sur l'histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Benoît Bolivier et Mélanie Chalandon. Le site internet est tenu par Antoine Lachand. Vous pouvez y écouter l'émission pendant un mois, la télécharger jusqu'à demain matin 9h ou trouver des bibliographies complémentaires également. À la technique, Martin Delafosse, à la réalisation, Charlotte Roux. Remercions donc les studios de Radio France à Lyon qui ont accueilli Julien Théry. Si vous voulez nous écrire ou nous téléphoner, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, pièce 61 23 à la Maison de Radio France ou encore sur le site internet www.franceculture.com, rubrique Les émissions, la fabrique de l'histoire. Demain, eh bien demain, un débat comme souvent les premiers vendredis de chaque mois, c'est un 29 du mois, mais c'est le premier vendredi presque du mois de mars, eh bien nous aurons un débat avec Arlette Farge et avec Pascal Horry sur les fictions d'histoire.